Bonjour Franck Tillier.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous recevoir de nouveau, alors pas vraiment à la librairie Mola, mais quand même par la voix des ondes. C'est une rencontre semi-confinée pour la parution de votre nouveau dernier thriller. Il était deux fois aux éditions Fleuve Noir. Vous êtes venu plusieurs fois à la librairie Mola, mais c'est la première fois que nous le faisons de cette façon-là, une rencontre virtuelle en ligne. Et votre public bordelais sera certainement présent pour vous écouter. Et en tant qu'ancien ingénieur en informatique, faire de nouvelles technologies, de sciences, j'imagine que cette rencontre virtuelle n'est pas trop impressionnante, même si vous aimez bien le contact avec vos lecteurs, je crois.
Oui. Écoutez, ravi de vous rencontrer par écran interposé. Alors, on devait se voir en plus cette année, puisque j'avais prévu de venir à la librairie. Écoutez, on essaye de s'adapter. C'est vrai que c'est aussi un moyen de continuer à partager avec les lecteurs, même si on ne peut pas se voir physiquement en vrai, de garder le contact et puis de pouvoir parler de la dernière sortie du livre. Je sais que les lecteurs apprécient toujours les rencontres qu'on peut faire et les dédicaces. Les dédicaces, ça sera pour un peu plus tard. En tout cas, on a déjà la rencontre. Donc, c'est déjà la moitié, on va dire, la moitié des choses de fait.
Et comment vous vivez-vous ce moment de confinement ou de semi-confinement ou déconfinement, cette mode de communication finalement inédit avec vos lecteurs, dont vous êtes vraiment très proche par les réseaux, justement?
Oui, alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le confinement. Alors, on est un peu habitué quand on est romancier à être confiné, hein, ça fait partie du quotidien. Donc finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, en tout cas dans mon travail. Hein. Évidemment, le monde extérieur a lui beaucoup changé, mais en tout cas moi je l'ai bien vécu. J'ai même beaucoup plus travaillé que d'habitude parce que étant confiné et n'ayant que ça à faire, je me suis évadé un peu par l'imaginaire et par mes histoires. Le déconfinement est plutôt progressif, hein, puisque finalement, je suis encore confiné puisque j'écris. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et ce qui change vraiment, c'est qu'effectivement, en ce moment, j'aurais dû être en pleine promotion. Hein. C'est vrai que mai et juin sont toujours des mois qui correspondent à la sortie de mon livre. Et j'aime bien aller à la rencontre des lecteurs. Donc là, on s'adapte, on garde un peu le contact en attendant que ça aille mieux et qu'on puisse enfin tous se retrouver physiquement.
Mais finalement, cette fois-ci, on est un peu, ça donne l'occasion d'être un peu invité chez vous, là pour le coup, dans votre fief, dans le Nord, je pense.
Oui, là vous êtes dans le Nord et chez moi, là, on est dans mon bureau, donc vous voyez, on voit un peu les poutres derrière. Alors, je suis dans les combles de ma maison, je ne suis pas puni, hein, ce sont des combles aménagés et c'est... donc j'ai toutes les combles pour moi à l'étage et c'est là où j'invente toutes mes histoires tout au long de l'année. C'est vrai que jamais personne n'a vu à quoi ressemblait mon bureau, personne ne vient ici hormis ma famille. Les lecteurs peuvent aussi découvrir avec moi-même, mais aussi avec toutes les futures rencontres que vous allez faire, un peu les quotidiens des écrivains, des romanciers, donc c'est aussi ça apporte ça aussi, je veux dire ces rencontres un peu virtuelles, un peu confinées, de voir les écrivains sous un autre jour, en fait, un peu plus dans leur quotidien, et c'est pas mal aussi.
Et donc cette rencontre dans votre antre d'écrivain, finalement, nous on est curieux un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous présenter juste en quelques mots ce lieu, mais ce bureau, mais qui est aussi là où vous élaborez toutes vos intrigues?
Oui. Là en fait, on est à l'endroit où j'écris. Mon ordinateur est juste là, à notre gauche ou droite, je ne sais pas. j'ai des livres qui sont tout au fond là-bas, mais j'en ai tout autour. Je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai un trop plein de livres un peu partout. Donc j'ai des livres qui sont bien rangés, j'en ai qui sont en pile. J'ai mes propres livres, hein, avec toutes les traductions qui sont aussi rangées ici. Mais ce confinement, il a eu pas mal d'effets positifs aussi. Je disais que c'était l'occasion de ressortir des livres qui étaient dans ma bibliothèque, de fouiller un peu. Et c'est vrai que j'ai retrouvé Truman Capote, qui à l'époque, voilà, il y a 10 ans, quand je l'ai lu, ce n'était peut-être pas le moment. Et là, c'est vrai que de le rouvrir là pendant le confinement, je me dis, allez, je me relance dans cette lecture et j'ai vraiment passé un bon moment. Donc, les livres, finalement, correspondent à... Voilà, il y a des périodes, des moments pour les lire et peut-être aussi des questions de maturité, de ma propre expérience du monde du polar aussi. Ça évolue tout ça. Donc, ça a été l'occasion, voilà, de fouiller un peu plus profondément dans ces piles de livres qu'on a tous chez soi.
Donc finalement, le dernier thriller, Il était deux fois, vous l'aviez écrit bien entendu avant ce confinement, mais on ne peut pas s'empêcher forcément de lire quelquefois des choses qui nous concernent dans la situation où on le lit. Donc moi, je l'ai lu finalement en plein mois de mars, donc c'est vrai que c'était assez particulier. Et dès le début, on est enfermé aussi. Je lis le l'Incipit si pour juste pour donner l'idée. L'hôtel de la falaise se nichait à l'endroit où la vallée de l'Arve se rétrécissait en un entonnoir de roches à 3 km à l'est de Sagas. À l'arrière de l'établissement de 46 chambres se dressait une paroi calcaire de 110 mètres qui, même en plein été, gisait aux trois quarts dans l'ombre, barrée d'une végétation chétive, occultée du soleil par les pointes grises et blanches des Alpes de Savoie. Un froid permanent y régnait. Une coulée d'air glacé descendue des cimes enneigées, plus particulièrement en ce début d'avril 2008, où le printemps tardait à se manifester. Donc là, c'est juste le tout début de Il était deux fois, où on est dans une sorte de huis clos, cerné par les montagnes. C'est un environnement qui n'est pas étranger dans certains de vos thrillers. Ça a déjà été la montagne est déjà présente dans pas mal de livres, dans le manuscrit inachevé avec Grenoble, même dans Atomka avec Chambéry. Ici, là, c'est Sagas, une petite bourgade paumée en plein cœur de la Savoie. Pourquoi ce choix là, finalement, est une toute petite ville?
Oui, bon, il y a plusieurs choses. Alors j'accorde beaucoup d'importance dans mes romans à l'ambiance et l'atmosphère. C'est important parce qu'on est dans un genre littéraire qui est le polar de manière générale, mais là, plus précisément, le thriller et le roman à suspense. Et l'ambiance est extrêmement importante. C'est avec elle qu'on va passer la majeure partie de son temps. Et donc, de bien choisir le lieu où ça va se passer, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Et c'est vrai que les montagnes, je trouve que c'est un bon élément pour un thriller. Alors là, on parlait de Sagas, donc c'est la ville où se passe la majeure partie de l'action, enfin en tout cas dans la première moitié du livre, parce qu'après ça bouge. Mais alors j'ai créé cette ville, parce que je trouve ça moi-même en tant que lecteur, quand je lis des romans où les romanciers créent des villes, je trouve ça toujours intéressant. Ça apporte quelque chose d'un peu fantastique, un peu imaginaire en plus. Et voilà, j'avais ce souvenir-là, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer d'en créer une. Et puis, cette ville, ce n'est pas la ville où on a envie d'aller, hein. C'est une ville de montagne, mais pas du tout touristique. Il y a une prison, il y a une gendarmerie, elle est encaissée dans une vallée avec des... Vous avez lu un peu le début, avec des parois rocheuses tout autour qui font que le soleil perce rarement. Et il y a beaucoup d'humidité et de brume, et c'est un peu voilà, l'environnement dans lequel sont les personnages. Mais par contre, j'ai créé cette ville, mais dans un vrai environnement de Savoie, qui est la vallée de l'Arve, hein, c'est du côté de Cluses, voilà, un peu, je dirais une quarantaine, cinquantaine de kilomètres de Chamonix. Et c'est un peu comme ça, c'est un peu cette ambiance-là qui se dégage de cet endroit-là. Et donc voilà, c'est là où se déroule l'action. Effectivement, c'est une sorte de huis clos parce que, alors ça se passe à l'extérieur, enfin c'est une ville, mais on est enfermé, quoi. On est enfermé avec les personnages dans cet endroit où je crois un des personnages dit à un moment donné, c'est l'endroit où on vit et où on meurt parce que finalement, personne ne sort jamais de cette ville. On ne sait pas trop ce qui se passe dehors. On est là, on y travaille, on y mange et finalement, on y vieillit. Donc voilà, c'est ça l'environnement du roman.
Mais finalement aussi, c'est un peu votre région natale.
Oui, alors je suis né à Annecy. Donc voilà, oui, les montagnes, c'est quelque... Moi, j'aime les montagnes, vraiment. Alors, à titre personnel, pour les vacances, pour les randonnées. J'aime ces décors-là. Et là, je les utilise de manière un peu plus angoissante. Il y a une disparition au début du roman. On retrouve juste le vélo au bord d'une forêt. Et les forêts sont immenses hein, dans ces endroits-là. Et on se dit, mais comment on va pouvoir retrouver quelqu'un dans une nature aussi hostile et aussi grande? Donc ça me plaisait de développer cet aspect-là dans le roman.
Et est-ce que c'est toujours aussi cette ambiance, ce cadre qui est posé, là, qui est anxiogène, cet univers minéral calcaire, donc cette paroi vertigineuse? Est-ce que c'est toujours cet environnement gigantesque, impressionnant, qui s'impose aussi à l'homme, au lecteur, à l'auteur, qui est finalement aussi le point de départ de l'élément déclencheur de l'histoire, de l'imaginaire de ce roman?
Oui, alors...
Ou c'est plutôt le personnage ou les personnages?
Pour celui-là, ça a été le personnage. Alors, je sais pas. Je parle de l'environnement. L'environnement, il est venu après, c'est-à-dire qu'il s'est presque imposé de lui-même. Je voulais écrire une histoire de disparition, et ça collait vraiment bien à la montagne, l'aspect granitique, comme je disais, les grandes forêts, les grands espaces, et en même temps cette ville un peu sombre. Et je voulais travailler un peu avec. Plutôt que d'avoir des policiers, d'avoir des gendarmes, parce que je trouve ça aussi intéressant dans les romans policiers, on croise souvent des policiers, par définition. Mais c'est vrai que dans ces petites villes-là, c'est plutôt des brigades de gendarmerie, de montagne, en fait. Et voilà, j'avais envie de traiter de ce corps de métier-là. Donc ça a contribué. Et puis, mais l'idée vraiment est venue d'un personnage, et en tout cas de la pathologie dont souffre ce personnage. Je pense qu'on va en parler, mais c'est surtout venu de là. Et après, j'ai construit mon histoire autour de ce personnage pour créer toute cette intrigue.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'ambivalence déjà que représente ce personnage. Déjà, c'est une sorte de rock, une stature imposante. Il mesure presque 2,90 m, je crois, un peu comme Charcot d'ailleurs. Hein. Il est une sorte d'armoire à glace comme ça, impressionnant, mais en même temps très fragile. C'est un homme brisé par la disparition de sa fille, donc Julie, qui a 17 ans en 2008, puisqu'on commence donc le livre en étant 2008. Sa fille a disparu, donc son vélo a été retrouvé parce qu'elle s'entraînait pour une course cycliste qu'elle allait disputer à Chamonix l'été, et donc son vélo a été retrouvé. Elle a disparu totalement, et lui, en tant que père et en tant que, bien entendu, enquêteur, il va se mettre un acharnement à essayer de la retrouver. Et là, on le suit un mois juste après donc cette disparition totalement mystérieuse, et en effet, là, pour le coup, c'est plutôt même la temporalité qui va jouer tout au long de ce roman, plus que le lieu. C'est vraiment aussi l'idée encore du temps, qui est quelque chose d'extrêmement important dans vos romans. Le temps, la mémoire, la chronologie.
Oui, exactement. Alors, par rapport à ce personnage, déjà c'est vrai qu'il est... C'est l'histoire d'un père qui va tout faire pour retrouver sa fille. Mais aussi un gendarme, c'est-à-dire qu'il est à la fois le père et l'enquêteur, ce qui n'est pas toujours évident à gérer, hein, parce que les émotions ne sont pas les mêmes. Normalement, l'enquêteur, le gendarme, lui, ne doit pas faire rentrer ses émotions en jeu pour être le plus rigoureux possible, pour voir bien tous les indices. Et là, il y a le père qui, lui, est submergé d'émotions. Donc, les deux sont dans la même tête. Donc, c'est un personnage très intéressant à développer pour un roman. Et effectivement, alors on peut de ce fait-là en parler, puisque vous me parlez du temps, de la mémoire. Ça démarre en 2008. Sa fille vient de disparaître il y a un mois. Il la recherche avec tous ses collègues. Et en fait, il parcourt les petits hôtels de Sagas, des environs, en se disant je veux relever les noms dans les registres. Au cas où, on ne sait jamais, peut-être que le kidnappeur est venu là. La veille de l'enlèvement. Donc, en fait, il va relever des noms, en se disant, je ferai des recherches plus tard pour savoir s'il n'y a pas un voyant rouge qui se met à clignoter quand je... Voilà. Et donc, ce fameux soir-là, donc ce soir de 2008, il prend un registre à l'hôtel de la Falaise, dont vous avez décrit tout à l'heure le tout début... dont vous avez lu le tout début du roman, c'est là où ça débute. Et il prend le registre, il va dans une chambre pour noter les noms de toutes les personnes, et il s'endort. Et il se réveille. Alors, il croit que c'est le lendemain, hein, c'est-à-dire lui se réveille il se rend compte que c'est un peu bizarre. Il est habillé différemment. Il n'est pas dans la même chambre. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il descend à l'accueil et là, on lui apprend qu'on est en 2020 et que ça fait 12 ans que sa fille a disparu. Voilà. Et c'est comme ça que débute le roman. C'est-à-dire là, on est... C'est les 10 premières pages.
Voilà, exactement. Qu'on rassure les lecteurs, c'est juste, c'est oui, juste oui, le tout début. C'est juste l'idée frappante, extrêmement déjà agrippante du début, qui est toujours très très fort chez vous. Quoi. C'est un peu votre marque, votre signature. Cette rentrée choc. Alors,
Et c'est ça. Et en fait, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à trouver. C'est-à-dire que quand je termine un roman et je me dis voilà, quel sera le roman suivant, il y a une recherche d'idées. À un moment donné, on se dit qu'est-ce qu'on va écrire, avec quel personnage. Et ce que je viens de vous raconter là, ça m'a pris 2 mois à trouver, parce qu'en fait, tout est basé sur cette idée-là. De se dire comment quelqu'un peut, en 2008, s'endormir à un endroit et se réveiller au même endroit 12 ans après. Je voulais démarrer comme ça, parce que je trouvais ça tellement extraordinaire. C'est vrai qu'on a une impression de saut dans le temps. On se dit, il a sauté dans le temps, il a passé 12 ans... alors qu'en fait, pas du tout, c'est réaliste, il n'y a pas de... C'est pas un roman fantastique, ça va s'expliquer par un type d'amnésie très particulier, mais la grosse difficulté de l'idée, en fait, ce qui fait la force de l'idée, je trouve, c'est ça, c'est-à-dire, lui, il parcourt des hôtels, il s'endort là, il se réveille là 12 ans plus tard, alors qu'il n'a aucune raison de se réveiller là 12 ans plus tard. Et on imagine l'horreur qu'il traverse, parce qu'il pense que sa fille vient de disparaître. Ça fait 1 mois, sauf qu'on lui dit, mais non, puisque 12 ans se sont écoulés, ça fait 12 ans que votre fille a disparu. Et surtout, on ne l'a jamais retrouvée. Et c'est même pire que ça. On a même abandonné les recherches. On a abandonné les recherches il y a 5 ans parce qu'on ne la trouvait pas. Et donc lui, on imagine son... Ça, c'est le début du livre. Il démarre le livre comme ça, dans cet état d'abattement total. Il est quasiment au fond du trou, quoi. C'est comme ça que ce personnage-là apparaît dans le roman. Mais ce qui va être intéressant, évidemment, c'est de voir comment il va pouvoir surmonter ces obstacles.
Oui, surtout qu'il y a d'autres faits assez incroyables qui se déroulent cette nuit, ou plutôt à ce réveil. Il croit qu'il est en plein cauchemar. Là aussi, la dimension du rêve et du cauchemar est bien entendu imbriquée, et la frontière entre les deux est toujours poreuse dans vos thrillers. Mais là, justement, il est réveillé par un bruit contre la vitre de la chambre, puisqu'il est totalement endormi, il est épuisé par ses recherches, et donc il finit par s'endormir dans cette chambre. Et un bruit qui le réveille, donc nous aussi avec, puisque nous, en tant que lecteur totalement empathique de ce personnage, on s'identifie totalement à lui. Au départ, il y a sa douleur. Et donc, un bruit sourd contre la vitre, ce sont des oiseaux morts, des étourneaux, qui sont comme ça projetés comme une pluie de grêlons, je crois que vous employez la comparaison, qui tombent morts comme s'ils étaient frappés par une sorte de quelque chose d'inexplicable. Là aussi, là et encore, on est en pleine science-fiction, on se dit, mais c'est incroyable. Alors on y croit, parce qu'on est quand même, on vous fait confiance. mais en même temps, ce qui est totalement dingue, c'est que là aussi, la réalité, quelquefois, rejoint la fiction. C'est ça qui est dingue chez vous, quoi. C'est comme dans Pandémia.
Oui, mais c'est ça. Alors,
je montre Pandémia parce que c'est le...
Oui.
On entend beaucoup parler, forcément,
ce qu'on a vécu. L'histoire de virus. Oui. Oui, alors là, la pluie d'oiseaux morts, alors moi, je connaissais ça. Hein. Ça fait partie des éléments vers lesquels... Enfin, que je creuse tout au long de l'année. Dès que je trouve des sujets comme ça un peu... particulier, je les stocke en mémoire, en fait. C'est-à-dire que moi, ça fait peut-être 4 ou 5 ans que j'avais découvert qu'il pouvait y avoir des pluies d'oiseaux morts. Mais parfois des oiseaux, même des criquets, ou je crois même il y a eu certains endroits des grenouilles qui tombaient, comme ça. Ça peut paraître complètement dément. Alors pour les grenouilles, c'était des vents très, très puissants qui les avaient embarqués. Et à un moment donné, le vent arrête et les grenouilles tombent comme ça. Là, les oiseaux, c'est différent. Mais c'est tellement... c'est vrai que quand j'ai imaginé le début de ce livre et cette ambiance que je voulais avec l'hôtel, dans cette petite ville, je trouve qu'il n'y a rien de pire pour un père comme lui qui a perdu sa fille de s'endormir dans un hôtel tout seul avec des registres. Et en réfléchissant à la scène, je me suis dit, mais j'ai eu cette... Enfin, ce n'est pas une fulgurance, je ne sais pas comment j'en suis venu à penser aux oiseaux, mais je me suis rappelé de ça, cette pluie d'oiseaux. Je me suis dit, mais ça serait bien de rajouter ça, en fait, dans ce début de livre, dans ce décor. C'est encore plus apocalyptique, en fait. On se demande ce qui se passe. Enfin, ça marche bien avec ce que je voulais faire. D'où, voilà, les oiseaux qui tombent. Alors, on les retrouve un peu plus loin tout au long du livre. Enfin, en tout cas, ils en parlent, hein, parce qu'évidemment, ce sont des étourneaux. Hein, vous avez déjà dû voir dans ces grands vols d'étourneaux qui décrivent des figures incroyables. Moi, j'ai déjà vu ça en vrai. C'est complètement fou. Et évidemment, on les retrouve un peu tout le long, puisqu'il y a une colonie qui est là. Et bah, ça perturbe un peu ce village aussi, enfin, cette petite ville, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces oiseaux? Donc, c'est un élément de décor aussi que je trouve intrigant, important, qui rajoute un peu de mystère aussi et un peu de dimension un peu, je dirais, divine dans l'histoire. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui font qu'on arrive à constituer une ambiance, une atmosphère. Ce n'est pas juste un élément, c'est tout un ensemble, en fait.
Oui, surtout que c'est des tourneaux. Enfin, il y a eu un mystère aussi en Suisse. Le 11 mars, il y a eu une centaine d'étourneaux qui sont tombés morts du ciel. C'est très étrange quand même, quoi. Comme quoi,
oui, oui.
comme quoi, quelquefois, ça répond de façon totalement incroyable, comme pandémie. Donc, est-ce que l'écrivain là aussi est un peu prophète, un peu visionnaire, ou est-ce que c'est totalement le hasard?
Oui, alors j'ai écrit Pandémia en 2015. Juste pour résumer rapidement, c'est un cygne mort qui est découvert dans une réserve naturelle du Nord, et ce cygne est porteur d'un virus. Alors, moi, dans mon cas, c'est un virus grippal inconnu. Et très vite, il va se répartir dans la population. D'abord une personne, puis deux, et puis dix, et voilà, ça devient une pandémie. Et je décris très précisément ce qui s'est passé là, avant le confinement, c'est-à-dire d'isoler la personne qui a le virus. On la repère, on l'isole, on repère tous les cas contacts, on essaye de les tracer. Quand il y en a 10, ça devient compliqué. Après, il y en a 100. Donc, on passe à des stades différents. Donc, tout ça, c'est dans Pandémia. Alors, je ne vais pas jusqu'au confinement, parce que ça, c'est quelque chose que... Enfin, pour moi, c'était la science-fiction à l'époque, quand j'ai écrit ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Je vais jusqu'à la fermeture des écoles, et en parlant de la désorganisation des hôpitaux, etc. En fait, ce n'est pas de la science-fiction. Ça fait partie des probabilités qui peuvent arriver, c'est-à-dire que des pandémies balayent l'histoire depuis la naissance de l'humanité. Tous les siècles, il y en a deux ou trois, voilà, grosses épidémies et pandémies qui nous touchent. Et donc voilà, j'ai voulu me dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passerait si une épidémie se mettait en route. J'ai fait des recherches auprès de l'Institut Pasteur de Lille, qui sont les spécialistes des virus, des pandémies, en discutant avec eux, nous explique comment ça se passe, nous explique qu'il y a des plans qui sont prêts, qui sont en place. Alors là, on s'est fait prendre un peu de vitesse parce que ça, tout n'a pas bien fonctionné, on l'a vu. Mais en tout cas, il y a des éléments qui sont prêts, des phases qui sont prêtes à être déroulées. Donc j'ai récupéré toute cette documentation et j'en ai fait mon histoire. Alors évidemment, on me donne un document qui est purement technique, et on ne peut pas faire un roman avec ça. Donc après, c'est au romancier de réussir à intégrer ça dans un univers, dans un livre qui va embarquer les gens, qui va faire que les gens vont avoir envie de lire le livre. Et finalement, toute cette documentation, il faut réussir à la faire passer dans la lecture pour que la lecture reste agréable. Et c'est un plus, enfin, c'est un vrai... le lecteur qui a lu un roman policier, il a passé un super moment voilà, avec le livre, mais à la fin, il se dit mais oui, c'est comme ça que ça se passerait s'il y avait un virus. Et ils l'ont bien vu là, les gens qui avaient lu Pandémia. J'ai vu beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux, tout ça, en disant, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé dans le livre. Et donc, quand on écrit des romans policiers contemporains, avec des faits de société, des problèmes d'actualité, et quand ils se déroulent, on est heureux, entre guillemets, d'avoir bien fait le travail. Mais ce n'est pas de la science-fiction ni de l'anticipation, c'est juste de se dire, je vais creuser cet aspect-là de la société, me dire... Qu'est-ce qui se passerait si cet élément-là se déclenchait? Et là, et à partir de ça, on inventait une histoire.
Mais vous aimez jouer avec les codes du thriller, les codes du fantastique, donc de la science-fiction. Vous aimez être dans cet environnement-là. Et là, pour le coup, dans Il était deux fois, c'est une autre forme de pathologie. Alors, si vous étiez en lien avec l'Institut Pasteur de Lille, dont vous êtes le parrain, je crois, qui est une cause qui vous tient beaucoup à cœur, donc là, d'autant plus avec la recherche d'un possible vaccin. Là, dans Il était deux fois, il s'agit d'un autre type de pathologie, puisque la science, là aussi, est toujours très forte dans vos thrillers, que ce soit la série Sharkwell Bell comme Pandémia ou
Oui, Oui, alors on parlait d'idées tout à l'heure, de recherche. Alors là, très précisément, c'est que entre deux romans, je ne sais pas ce que je vais écrire, donc je fais un peu des recherches au hasard. Hein, on parlait des oiseaux, voilà. Et j'aime bien creuser dans le domaine médical, scientifique, le cerveau, la mémoire. Donc souvent, je fais des recherches dans ces domaines-là. Et j'ai découvert l'existence de cette amnésie très particulière. Alors, je vous sors le nom, c'est l'amnésie psychogène atypique, et on peut même rajouter entérograde, si on veut, pour compliquer un peu. Ça existe, ça touche très très peu de personnes dans le monde. Je ne sais pas, c'est de l'ordre d'une centaine ou du millier, donc c'est vraiment extrêmement rare. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est rare, mais ça existe. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir cette amnésie-là. Elle est incroyable, parce que, en fait, ce sont des gens qui, du jour au lendemain, oublient tout un bloc de leur vie, sans qu'il y ait de cause physique, en fait. C'est plutôt psychologique. C'est-à-dire que souvent, quand on traite les amnésies, il y a un accident et la personne a oublié tout son passé. Là, non, c'est un morceau de sa vie. Alors, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années. Une personne qui s'endort le soir, elle se réveille le lendemain, elle pense avoir le même âge, elle pense à continuer sa vie. Et en fait, il s'est passé 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, j'ai créé mon personnage sur ce modèle-là. C'est vraiment ça qui m'a donné l'idée du livre, de me dire, mais cette amnésie-là, c'est un sujet de roman extraordinaire. C'est dramatiquement parlant, c'est très, très fort. On imagine un personnage qui souffre de cette amnésie, toutes les difficultés qu'il va devoir surmonter. Il n'y a rien de pire qu'oublier, hein, là, 12 ans de sa vie. Oublier que sa fille a disparu il y a 12 ans, il pense qu'elle vient de disparaître. Enfin, il y a tout ça qui se met en place. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 12 années? Où il a vécu? Il va se rendre compte que la vie a changé, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire du jour au lendemain, on est en 2008, on passe en 2020, donc lui, le téléphone portable...
Oui, vous rappelez aussi les petits trucs...
Oui, et c'est là où on voit que ça va vite. C'est là où on voit entre 2008 et aujourd'hui, finalement, la technologie, il y a tout un tas de choses qui ont évolué. Et aussi des éléments aussi anecdotiques. Alors, anecdotique, c'est pas anecdotique, mais par exemple, la mort de Michael Jackson, qui je crois est mort en 2009, eh bien, lui, en fait, avant d'être amnésique, il l'a vécu une première fois. Et puis là, il s'est écoulé 12 ans, et on est en 2020, on lui dit, voilà, t'as perdu la mémoire, etc. Mais aussi, par exemple, tu sais pas que Michael Jackson est mort. Et là, il le réapprend une deuxième fois. Apprendre les choses deux fois, apprendre les drames deux fois. Vivre les choses plusieurs fois, donc c'est horrible. Enfin, et donc ça crée forcément un personnage tout de suite très 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 riche. On imagine la pelote de laine, et c'est comme ça que je crée mes histoires, c'est-à-dire que en me disant que j'aurai un personnage qui va avoir cette pathologie-là, avec l'idée de l'enlèvement de sa fille et puis cette petite ville, en fait j'avais mon roman en fait, sans savoir ce que j'allais raconter, parce que ça c'est venu après. Mais en tout cas, ces éléments-là me suffisaient à me donner une image de ce que serait globalement mon histoire.
Parce que finalement, donc, il y a plusieurs fils qui sont tirés à chaque fois dans vos romans, dans vos thrillers. Donc, il y a l'enquête sur sa fille, sur la disparition de sa fille, puisqu'il va devoir reprendre cette enquête, même s'il va la reprendre de façon plus ou moins officieuse, parce que là aussi, sa situation personnelle, matrimoniale a changé. Enfin, on n'en dit pas beaucoup pour pas déflorer le suspense, mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont basées aussi dans sa vie dont il ignore totalement le chaos qui est devenu sa vie en 12 ans. Mais en même temps, il y a aussi l'enquête sur son propre passé qu'il va essayer aussi de creuser. Pourquoi sa fille a disparu? Pourquoi il est dans cet état-là? Et donc c'est ça aussi qui sont les deux ressorts principaux de ce thriller.
Oui, c'est une situation qui nous fait se poser 1000 questions dès le départ. En fait, vous en avez cité quelques-unes. C'est ça qui rend la situation extrêmement riche, qui dit il y a de quoi faire vraiment un roman. Aussi, pourquoi il se réveille là 12 ans plus tard aussi, c'est-à-dire pourquoi à cet endroit-là. Sa situation.
Cette pathologie aussi est liée aussi à un traumatisme, justement.
Oui, alors il y a ça. Pourquoi il a perdu la mémoire aussi? Parce que cette amnésie-là, c'est un système de défense du cerveau qui dit le cerveau dit vaut mieux oublier que de savoir, et donc hop, il occulte. Donc pourquoi? Quel a été l'élément déclencheur de l'amnésie? Et donc ça, c'est terrible. Alors après, il y a... Oui, la situation a forcément évolué, personnel, le métier, tout ça, parce que... Alors là aussi, j'ai fait beaucoup de recherches dans ces domaines-là, c'est-à-dire la psychologie des parents d'enfants disparus. Alors ça, c'est un sujet terrible aussi. Mmh.
J'ai lu beaucoup de... C'est une part de votre documentation ?
Ouais,
ou de vos rencontres ? Vous avez rencontré des associations de parents d'enfants
disparus ? Non, c'est plus... Alors, de toute façon, c'est un sujet, c'est pareil. Ça fait des années que je m'intéresse aussi à ces... Je regarde beaucoup de reportages. Là, ça a été beaucoup de témoignages, mais en lecture uniquement, dans tous les domaines autour des disparitions. Quand je discute avec des policiers aussi, c'est des sujets qui reviennent et qui disent, pour nous, les affaires de disparition, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que quand on a un crime, on a un corps, au moins. Voilà, on a quelque chose. Une disparition, on n'a rien, on ne sait pas. Et les policiers ne savent pas, mais pour les parents, c'est encore pire. Et donc, il y avait toute cette psychologie-là à étudier, ce qui, évidemment, rend un personnage encore plus intéressant et plus complexe. Je trouvais intéressant de prendre un père aussi d'enfants disparus. Et puis souvent, dans ces couples-là, ça explose. Enfin, il se passe tout un tas de choses qui font que c'est... Il y en a qui sombrent complètement. Il y en a qui, au contraire, se battent. C'est apparemment son cas, lui, parce qu'il est encore là 12 ans après. Donc, il peut très bien se dire, voilà, j'ai continué à me battre, donc je vais recommencer. Enfin, il y a aussi le « Il était deux fois », le titre, quelque part. Avant qu'il ait son amnésie, ça veut dire qu'il n'a jamais réussi à retrouver sa fille, puisqu'elle est encore disparue 12 ans après. Il a son amnésie, et lui veut la retrouver, donc il veut recommencer, puisqu'il ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 12 années. Il se dit, c'est pas possible qu'on ne l'ait pas retrouvé, on a dû passer à côté de quelque chose. Et donc, il va se remettre à rouvrir tous ces dossiers fermés. Il n'a même pas le droit, en fait, parce que c'est des dossiers judiciaires qui sont clos. Il va tout... Oui, puis en fait, avec son regard neuf, puisqu'il est amnésique, en fait, c'est comme si tous ces dossiers, ces milliers de pages de procédures, c'est comme s'il était face à ces pages-là pour la première fois, en se disant, peut-être que je vais voir un détail que je n'avais pas vu à l'époque. Et c'est comme ça que ça va redémarrer doucement. Peut-être que c'est une seconde chance, en fait, finalement. Cette amnésie, c'est il était deux fois, c'est-à-dire peut-être que s'il n'avait pas eu cette amnésie, il n'aurait jamais retrouvé sa fille. Alors, on ne sait pas s'il va retrouver tout ça, mais en tout cas, ça ouvre ça lui redonne du courage et de se dire, voilà, je vais recommencer et je vais la retrouver cette fois-ci.
Je m'interrogeais un peu sur le 2008-2020, enfin, c'est 12 ans, parce qu'on sait que dans vos thrillers, rien n'est jamais vraiment le fruit du hasard. Et puis, vous aimez jouer avec vos lecteurs, vous aimez jouer avec vos... Même si on peut le prendre tout à fait, de façon tout à fait indépendante, et il est indépendant par rapport à vos autres livres. Mais je me disais 2008, parce que bon, ça, c'est peut-être pas loin du 20e livre écrit, je crois.
Oui, 19, je crois, oui, c'est ça.
Et donc, je me disais 2008, c'est l'anneau de Mobius. Alors, il y a une question aussi de dualité, ou dans La mémoire fantôme, qui est le deuxième de la série Charcot & Bell, Lucienne Bell, pardon, qui pourrait d'ailleurs servir de titre La mémoire fantôme, qui venait de sortir chez Pocket. Donc je me dis, mais ce thème de la mémoire, ce thème du double, de la gémilité, de la dualité, c'est quelque chose qui se creuse de plus en plus. Qu'est-ce qui vous fascine autant dans ce sujet qui paraît inépuisable?
Oui, alors c'est un peu difficile à expliquer parce que je pense que ça fait partie justement... Enfin, quand on retrouve des éléments comme ça dans un ensemble de livres, c'est que ça doit me toucher très profondément. Ça fait peut-être partie des obsessions de comprendre comment le temps fonctionne. Qu'est-ce que le temps... Enfin, moi, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai fait beaucoup de physique dans mon cycle ingénieur. Et ça m'avait toujours fasciné, le temps, quoi, l'écoulement du temps, le passé, tout ce qui... Là, il y a une minute, c'est devenu passé pour nous. Où c'est parti, où est-ce que ça... Voilà, donc tout ça, ça m'interroge. Et le temps, la notion de temps est très liée à la mémoire, à la persistance, au souvenir. Et donc, moi, j'ai toujours été effrayé en me disant, mais est-ce que les personnes qui n'ont plus aucun souvenir, est-ce qu'elles existent encore finalement, puisqu'elles ne savent plus d'où elles viennent, elles ne savent plus qui elles sont, est-ce qu'elles ont vécu. Et donc, voilà... C'est vraiment des interrogations profondes dont on n'a jamais les réponses finalement, parce que si on les avait, à un moment donné, on n'écrirait plus là-dessus, puisqu'on aurait fait un peu le tour du sujet. Donc ça revient. Le cerveau aussi, j'aime beaucoup m'intéresser au fonctionnement du cerveau, et on sait aujourd'hui qu'on en connaît très peu, c'est-à-dire plus on en connaît sur le cerveau et moins on en connaît sur lui. C'est très paradoxal. Et puis les obsessions qu'on retrouve aussi... dans la majeure partie des romans policiers, dont les miens, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens passent à l'acte, franchissent les frontières. Ici, il y a une interrogation, enfin, tout part de cette disparition, c'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un disparaît d'une manière criminelle, parce que là, il s'en doute, pourquoi ? Pourquoi il y a ce besoin d'une personne de faire du mal à une autre ? Pour quelle raison ? Comment on devient comme ça ? Et donc, il y a vraiment tous ces sujets-là qui sont traités dans le livre, qui sont des thèmes récurrents chez moi, effectivement, mais que j'essaye d'aborder de manière toujours originale. C'est pour ça que c'est très, très important d'avoir des angles différents qui fait que les livres sont très différents, parce que je sais que les gens me suivent, les lecteurs me suivent depuis des années, et c'est essentiel de leur donner des histoires qui ne se ressemblent pas. Alors oui, j'ai déjà écrit sur la mémoire. La mémoire fantôme, c'était une amnésie. On retrouve ces thèmes-là dans mes livres. Mais celui-là, c'est comme si... là, je vois les retours des gens qui le lisent. Jamais ils vont dire ça ressemble à tel livre, etc. Donc c'est bien, ça prouve que ça... On peut traiter des sujets qui nous obsèdent, mais de manière à chaque fois différente.
Oui, tout à fait. Et aussi, ce livre pose la question de façon encore plus aiguë. En fait, c'est savoir pour Gabriel Moscato, c'est savoir aussi qui il est. Parce que là, lui, oui. Il a perdu tous ses repères.
Oui. C'était intéressant de...
C'est la question fondamentale et primordiale, presque, de tout être humain.
Il y a la psychologie des enfants disparus, mais aussi des amnésiques, c'est-à-dire, ça c'est compliqué aussi pour un amnésique de se dire, de comprendre, quoi, de savoir tout ce qu'il a perdu, de se dire peut-être qu'il ne le rattrapera jamais. On a l'impression qu'on nous a coupé 10 années de notre vie dans ces cas-là, où on a de s'être fait voler son passé. Donc, comment on surmonte ça ? Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et donc, lui, oui, c'est pour ça qu'on s'attache très très vite à ce personnage-là, parce que c'est un vrai personnage de thriller, c'est-à-dire que, comme on aime en rencontrer, c'est des personnages que tout écrase dès le début du livre. Hein. C'est dans la mécanique, je trouve, un peu Hitchcockienne du thriller.
Les oiseaux, ils ne sont pas pour rien.
Oui, voilà. je parle même de MacGuffin, qu'on retrouve dans les Hitchcock. C'est un peu le propre des histoires à suspense, c'est-à-dire d'avoir des héros qui sont au fond du gouffre. Et malgré ça, ils vont réussir à remonter la pente, petit à petit, à surmonter les obstacles. Ce qui en fait des héros, en fait, c'est-à-dire que ce sont des gens ordinaires, puisque lui, il est gendarme dans une petite ville. Et il devient héros parce qu'il arrive à surmonter les obstacles. Là où nous-mêmes, on aurait peut-être abandonné à un moment donné, eh bien lui, il continue. Et en fait, j'ai un peu compris l'image du héros avec le parce que j'ai toujours du mal à expliquer ce qu'était un héros dans un roman. C'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs extraordinaires, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va faire des actions qui vont le mettre en valeur et qui vont le différencier des autres. Et avec le confinement, j'ai un peu compris, c'est un peu ce qui s'est passé avec, finalement, notre personnel soignant, c'est-à-dire des gens qui ont des vies comme tout le monde, mais qui, d'un seul coup, deviennent des héros parce qu'ils accomplissent des actes qui les poussent à aller au-delà d'eux-mêmes. Et qui sont incroyables, parce qu'on a tous imaginé ce qu'ils ont pu subir dans cette période extrêmement compliquée. Et c'est pour ça qu'on les a appelés héros, en fait. Ils n'ont pas de super pouvoir, mais ils ont fait des choses de valeur et qu'on trouve extraordinaires. Et c'est un peu ça, le Gabriel Moscato de mon roman, il est un peu comme ça. C'est des personnages, forcément, qui déclenchent une empathie. On se connecte à eux et on a envie de les suivre dans leurs aventures.
Et justement, ces héros qui sont à la fois ordinaires et extraordinaires, ces anti-héros comme Franck Charcot, comme Lucienne Bell, comme Nicolas Bélanger, qu'on espère retrouver en bonne forme la prochaine fois. tout ce plaisir qu'on a à suivre ces histoires, aussi sombres soient-elles, parce que quand même ça va toujours assez très loin même dans l'horreur. Mais en même temps, voilà, il y a cette forme d'humanité. Non pas qui sauve de façon magique comme si c'était artificiel, mais en même temps, voilà, c'est extrêmement crédible et on ressent de plus en plus à travers tous les différents thrillers, enfin, de plus en plus une sorte de plaisir plus grand président dans le style, une liberté de ton, de thème abordé, y compris alors par exemple, parce qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ce roman là encore, puisqu'il est foisonnant, il fait plus de 500 pages. Je voudrais mettre l'accent sur l'art, par exemple, les recherches qui sont faites, parce que bon, vous parlez de votre formation scientifique, mais en même temps, voilà, il y a une grande richesse des références. Alors, on a parlé du cinéma. Alors, en effet, on pense aux Jours sans fin, on pense à plein de, on pense au film Inception dans un autre de vos romans. Enfin, il y a plein de références comme ça qui sont plus ou moins évidentes. Là aussi, il y a le jeu avec le lecteur des références des autres romans, mais en même temps de son univers et de sa culture. Est-ce que c'est ça aussi qui vous intéresse à chaque fois dans vos romans et qui est aussi le plaisir de l'auteur et de l'écrivain pour le coup?
Oui, il faut qu'on se fasse plaisir avec des sujets, des personnages qui nous plaisent. Alors, il y a deux aspects dans ce que vous avez exposé. D'une part, l'humanité des personnages, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que on ne lit pas un livre juste pour avoir une histoire qui se déroule devant nous, avec laquelle on va garder une distance. Ce qui connecte un lecteur à un livre, ce sont les personnages. C'est l'humanité qui va se dégager d'un personnage, c'est l'empathie, hein, j'en parlais. Il faut avoir envie de suivre le personnage, de l'accompagner dans ses aventures. Et si cette envie-là ne se déclenche pas, on va décrocher du livre, aussi bien soit-il, aussi performante soit l'histoire. Et donc, vraiment, les personnages sont aussi importants que l'histoire qu'on va créer. Donc, c'est très important de bien les choisir, de bien les travailler pour qu'ils soient bien présents, qu'ils nous donnent envie de lire. Et puis, c'est finalement ces personnages qu'on retient après une lecture. Puis après, il y a l'autre aspect, effectivement, l'histoire qu'on raconte. Les sujets qui sont abordés, alors moi j'ai parlé un peu de ces sujets scientifiques qui sont fascinants autour de la mémoire, mais après il y a toujours aussi un sujet de fond, plus ou moins quand même. Alors dans Mes chers Cohen Bell, il y a toujours vraiment un gros sujet scientifique, que ce soit le virus, on en a parlé tout à l'heure, les nouvelles technologies, le sang contaminé, enfin tout ça c'est vraiment un sujet, je le prends et je le développe. Là, c'est plus par petites touches, mais c'est vrai qu'il y a un thème qu'on retrouve en filigrane dans le livre, qui est celui de l'art et du rapport que peuvent avoir les artistes avec les lois et les frontières en fait qu'on pourrait franchir. C'est une interrogation que j'ai moi-même, puisque écrivant des livres, inventant des histoires qui en plus parlent de crimes, de se dire pourquoi on crée, pourquoi on invente des histoires, jusqu'où on peut aller dans ce qu'on écrit. Est-ce qu'on peut aller aussi loin qu'on le veut? Et donc, il y a cette interrogation permanente, ce rapport entre le créateur, l'artiste, et ses œuvres d'art, jusqu'où il peut aller pour la création de son œuvre. Est-ce qu'il a le droit de s'affranchir des lois au nom de l'art? Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est des sujets qui... C'est pareil, hein, puisque ça fait partie de ce que je suis, qui m'intéresse depuis... des années, et de voir que beaucoup de grands artistes, plus petits, mais en tout cas les plus connus, ont tous à un moment donné traversé des périodes extrêmement difficiles dans leur vie d'artiste, ont eu besoin aussi de mettre en scène le meurtre à leur façon, puisque moi je le mets en scène dans mes livres, j'écris des romans policiers, mais un peintre comme le Caravage, par exemple, année 1600, à un moment donné de sa vie, il a peint des scènes extrêmement dures, des décapitations, des scènes de meurtre sur ses tableaux. Des tableaux très sombres, très... Mais même quand je dis sombre, c'est à la fois sombre dans ce qu'il représente, mais aussi dans les couleurs. Et pourquoi ce besoin? Alors lui, c'était un peu particulier parce qu'il y avait eu un passage à l'acte dans sa vraie vie. Il avait tué une personne qu'il avait provoqué en duel, ce qui était interdit. Et ça, c'est intéressant de se dire comment l'art, ce qu'on crée, déborde sur la personnalité dans la vraie vie. Quelle est la frontière entre ça? Pourquoi des peintres comme Cézanne ont eu besoin, à un moment donné de leur vie, de peindre des meurtres? Cézanne, il a peint des tableaux qui sont des scènes de vie du quotidien où des femmes se font étrangler, mais on voit que le tableau, c'est ça, c'est un étranglement, c'est un crime. Et est-ce que par le tableau, on peut comprendre qui sont les personnes qui les ont peintes et pourquoi elles ont peint ça? Et donc, c'est une espèce de mise en abîme, encore une fois, parce qu'en m'interrogeant moi-même sur ces artistes-là, finalement, peut-être que je réponds aussi un peu à des questions sur moi-même, puisque j'écris ça. J'écris des scènes de crime, j'écris des meurtres, je fais des descriptions, et de me dire, mais pourquoi je fais ça, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette histoire et dans la création de manière générale, c'est ce rapport qu'on a avec notre propre art et création, notre propre œuvre, entre guillemets.
Et ce qui devient fascinant quand on vous lit, c'est que justement, on s'interroge nous-mêmes sur nos propres limites, sur nos propres transgressions, sur nos propres jusqu'où on peut aller. Et vous faites aller vos personnages jusqu'à des extrêmes aussi, quoi. Et c'est vrai que autant dans l'art que dans le meurtre, justement, c'est là où le parallèle est aussi très intéressant, puisqu'en effet, Géricault, Goya, que vous citez, Delacroix, tous ces peintres, en effet, ont tous écrit presque, tous peints, toutes ces scènes d'horreur avant. Mais en même temps, vous montrez que c'est toujours aussi actuel, que c'est toujours aussi, même si les motivations sont peut-être plus, encore plus, plus secrètes, plus raffinées. Mais en même temps, c'est cette fascination du lecteur aussi pour ce monde de l'art, finalement, le criminel ou l'auteur presque, ou l'écrivain, est-ce qu'il n'est pas peut-être le parfait serial killer, finalement?
Oui, mais c'est très intéressant, parce que le lecteur aussi peut s'interroger. C'est-à-dire que moi, romancier, je m'interroge sur ce que j'écris, pourquoi j'écris ça, mais pourquoi le lecteur va venir lire ces histoires-là, justement?
Pourquoi nous sommes victimes consentantes?
Oui, c'est ça, c'est victime consentante. Alors, il y a toujours ce double attrait, mais c'est vrai que j'en parle souvent, de répulsion, attirance, quoi. C'est exactement ce qui se passe quand on regarde un tableau où on voit un meurtre ou un film. Ça nous attire et ça nous fascine, parce qu'il y a quand même cette fascination de la transgression et de se dire, j'ai accès à quelque chose auquel je n'ai pas droit dans la vraie vie. Eh bien, l'œuvre d'art ou le livre peut me le donner et peut m'expliquer ce qui se passe. Et il y a cette répulsion en se disant, mais c'est abject, c'est horrible. Et ça, c'est intéressant comme sentiment. Et c'est vrai que j'aime bien creuser ces thèmes-là. Mais même des grands écrivains, Victor Hugo, Zola, tout ça, on écrit des meurtres, des passages comme ça. Et j'avais même lu il n'y a pas longtemps que quand vous allez dans les musées, la moitié de ce que vous pouvez voir en œuvre d'art sont finalement des représentations de meurtres ou de crimes. Ces grandes scènes religieuses où il y a des personnages qui ont une plaie dans le flanc, qui se font tuer par d'autres. En fait, quand vous regardez dans les musées, il y a beaucoup de choses comme ça, de scènes de souffrance, de martyrs. Parce que les artistes, il y a deux choses. Les artistes ont eu besoin à un moment donné de mettre en scène, besoin personnel, mais aussi parce que c'est la société qui est comme ça. C'est-à-dire le meurtre fait partie de la société. Il n'y a pas de société sans meurtre et sans crime, en tout cas. Et bien, comme le crime existe dans notre société et que l'artiste finalement expose aussi ce qu'est la société, il expose le crime. Donc c'est quelque chose qui s'auto-alimente et qui fascine et qui se véhicule depuis les tout premiers instants de notre humanité, en fait.
Oui, parce que c'est ça, c'est quasiment même presque biblique. Ce déluge d'oiseaux morts fait aussi penser à une sorte d'apocalypse. Il y a quelque chose,
oui.
Il y a quelque chose aussi de ce texte originel, quoi, d'où on provient tous, dans cette création, finalement, cette grande création. En même temps, il y a dans l'écriture, de livre en livre, on perçoit aussi une sorte de jeu de plus en plus affirmé avec le lecteur, avec sa propre en fait, finalement, le lecteur est aussi l'enquêteur dans vos livres. Est-ce qu'on peut en dire un peu sans forcément dévoiler les trucs et les astuces, mais en même temps il y a le jeu avec le langage, avec les mots, avec les avec les acrostiches, avec des palindromes, avec tout ce qu'offre la langue française, et en même temps est-ce que le lecteur, en effet, est mis à contribution dans vos livres et d'autant plus dans celui-là? Et comment?
Oui, je trouve que ça fait partie du genre qui est celui de l'enquête, du roman suspense, du thriller. Il y a l'histoire qu'on raconte. On ouvre un livre, on le lit. Mais il y a aussi ce jeu, qui est le propre du genre. C'est-à-dire, vous avez des lecteurs qui sont enquêteurs, ils ont envie de comprendre ce qui se passe et de deviner où veut en venir l'auteur. Donc des vrais Sherlock Holmes, hein, quelque part. Et puis après, vous avez l'auteur qui, lui, connaît ses lecteurs et qui va essayer de les tromper par diverses astuces et ruses. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris au fil de l'écriture. C'est pas inné, hein, c'est à force d'écrire des livres, à force de rencontrer les gens, de discuter avec eux en disant... ils viennent me voir, ils me disent « Ah, mais j'ai découvert ça. Ah, mais là, j'ai compris avant que vous m'expliquiez dans le livre. » Donc, c'est de prendre les remarques des gens, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de l'adapter au livre suivant. Donc, c'est une vraie... c'est une horlogerie, en fait, hein, un roman suspense. C'est de déclencher les bonnes sensations au bon moment pour que ça fonctionne. Et s'il y a un petit élément qui est grippé dans cette mécanique-là... ça marche moins bien, donc c'est important de bien connaître son lectorat, de bien connaître ses propres capacités, sa manière de raconter l'histoire, et puis aussi d'avoir des influences et de soi-même aimer ce genre-là, et de lire, de regarder des séries pour voir comment les autres font aussi. Et on apprend chaque jour, c'est comme un sport, en fait. Donc c'est vrai que... celui-là, plus particulièrement, effectivement, il y a l'histoire que je raconte, et il y a aussi un peu une chasse au trésor ou des énigmes
à résoudre,
mais sans que ce soit envahissant. C'est-à-dire, on peut lire le livre en passant complètement à travers ces énigmes. Les lecteurs peuvent avoir des histoires tant qu'ils veulent, mais par contre, cette partie, je dirais, supplémentaire, qui est celle de l'enquête dans le livre et d'essayer de découvrir les codes cachés que je cache... ça crée une joie chez le lecteur, ça crée un niveau de lecture supplémentaire, et puis en même temps ils se retrouvent après sur internet, sur les réseaux, et ils font des théories en se disant mais est-ce que t'as vu ça, etc. et c'est très plaisant, je trouve. Le livre continue à vivre une fois refermé, et ça, moi, j'aime beaucoup quand une histoire existe encore, même si on l'a terminée, en fait.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le propre de vos livres, quoi. Qu'il reste dans l'esprit des lecteurs et que justement le lecteur continue à jouer avec, à s'effrayer. Et c'est ça le plus ce qui est recherché aussi.
Oui, j'essaye. Alors après, je sais pas si ça marche à chaque fois, mais en tout cas, ça a l'air de bien plaire au lecteur. Mais il faut pas que ce soit envahissant. Hein. C'est ce qui est important. C'est encore une fois une question de dosage. Entre l'histoire qu'on raconte, entre les personnages, entre le rythme, l'ambiance, c'est un juste mélange qui fait que la sauce prend et la mayonnaise prend et que le livre fonctionne. Il faut pas que ce soit déséquilibré. Et donc voilà, mais ça se fait aussi avec l'expérience.
Finalement, vous êtes le parfait magicien, le parfait illusionniste. Vous cachez bien votre jeu, et vous êtes un prestidigitateur hors pair, puisque vous truffez plein d'énigmes et de clins d'œil vos livres, même si en effet il y a plusieurs niveaux de lecture, et on peut tout à fait s'en tenir au niveau de ce livre-là sans avoir lu forcément les précédents. Mais bien entendu, il y a plein de rappels, notamment à un autre livre, mais sans aucune obligation d'avoir lu, même s'ils sont complémentaires. Et ces mises en abîme, ce jeu dans le jeu, cet art de la prestidigitation, c'est aussi ce savant dosage entre, justement, d'une certaine façon, la part solaire, la part de l'enquête, de l'enquêteur vers la vérité, et en même temps la part sombre, la part des ténèbres qui gît dans chacun de nous. C'est plutôt ça aussi, le dosage, cet équilibre-là à trouver.
La psychologie, enfin en tout cas, ce qui est important, c'est que les personnages concrets, il faut qu'ils soient vraiment le plus juste possible. On parle souvent de stéréotypes, attention, de personnages clichés, tout ça, il faut faire vraiment attention à ça. Dans la vraie vie, les personnages ne sont ni blancs ni noirs, on est tous plus ou moins gris, hein, avec des parts d'ombre et de lumière, chacun d'entre nous. Des zones de secret, on voit bien l'importance du secret dans le roman, parce que finalement, les personnages en ont tous, très différents, d'ordre très différent, mais en tout cas, on a tous notre petit jardin secret. Et ça, c'est intéressant à traiter aussi dans une histoire, d'aller en profondeur dans les histoires qu'on raconte. Je parlais tout à l'heure des recherches très précises, et d'aller dans des domaines assez pointus, mais aussi, il faut aller dans les domaines pointus, dans la psychologie humaine, à l'intérieur de la tête des personnages pour être au plus juste. Moi, c'est un père gendarme d'enfants disparus, mais aussi amnésique. Alors, comment ça se passe quand on a à la fois perdu un enfant, mais qu'on est amnésique? Enfin, c'est les personnages qui n'existent pas forcément. Enfin, je veux dire, il faut des amnésiques sont plutôt rares, des parents d'enfants disparus. Même s'il y a beaucoup de disparitions, c'est assez rare, mais les deux en même temps, dans une seule tête. Donc, il faut essayer d'imaginer ce que ça... Voilà, donc c'est pas évident. Il faut se mettre à la place du personnage, il faut lire des choses aussi sur la psychologie, savoir comment on réagit à telle ou telle situation. Mais ça, on le fait... Enfin, moi, je le fais depuis des années. Et ce que je disais tout à l'heure, créer un bon personnage, c'est aussi difficile que de créer une bonne histoire. Et ce que les gens retiennent d'un livre, c'est souvent les personnages. Harry Potter, voilà, on retient Harry Potter, même si on ne sait plus trop ce que ça raconte. Mais c'est ça, c'est le personnage qui ressort. Et donc c'est important, voilà.
C'est ça que vous voudriez, qu'on retienne Gabriel Moscato, ou qu'on retienne Charcot, plus que le créateur.
Oui,
derrière,
Charcot. oui, bah c'est vrai. Hein, bah,
que la créature supplante.
Oui, mais là aussi, c'est très, très intéressant. La psychologie du lecteur, ça c'est fascinant. Je crois même qu'il faudrait que quelqu'un écrive un livre là-dessus parce que moi, quand les gens me parlent de Charcot, ils m'en parlent comme si c'était un vrai personnage qui existait. Ils sont tristes quand il va mal. Ils me disent mais arrêtez, ne lui faites pas de mal au prochain livre. C'est incroyable parce qu'en fait, Charcot, c'est un personnage de papier, il n'existe pas. Mais dans la tête des gens, des lecteurs, il existe. Et moi, je trouve ça fascinant d'avoir réussi quelque part à créer ça. J'en suis heureux parce que les gens... Charcot, il a une vraie épaisseur dans la tête des lecteurs. Il n'est pas comparé à un autre. C'est-à-dire que Charcot, c'est Charcot. Il n'est pas comparé à Sherlock Holmes, à Hercule Poirot ou à je ne sais quel illustre personnage de roman. Il est Charcot. Et quelque part, de créer un personnage singulier comme ça dans l'univers policier, c'est quand même quelque chose de complexe. Parce que quand on débute et quand on arrive dans ce monde du polar, il y a des centaines de grands personnages qui existent. Et on se dit, mais moi, je veux créer mon petit personnage à l'intérieur de tout ça. Et comment faire pour que, à la fois, il soit différent des autres, mais pas trop non plus, parce que ça reste un flic. Et donc, voilà. Et après, c'est le lecteur qui décide de s'accaparer le personnage et d'en faire ce qu'il est. Mais... en tout cas, je suis heureux du parcours de ce personnage-là, de mon Charcot. Alors, Gabriel Moscato, c'est un peu différent. C'est un personnage pas destiné à revenir, hein, comme souvent dans les one-shots, ils existent le temps du roman. Je ne sais pas hein, ce que dira l'avenir, mais en tout cas, je suis très heureux de l'avoir, en tout cas, créé, et puis d'avoir passé un an de ma vie avec ce personnage.
Et puisque vous avez toujours un an d'avance sur nous, forcément, puisque Lucas vient de sortir chez Pocket, qui est le dernier de la série Charcot et Lucienne Bell. Une petite annonce de ce que nous réserve. J'imagine que vous êtes en pleine écriture du suivant, peut-être.
Oui. En général, je termine mes livres, comme là, il était deux fois, je les termine en octobre, novembre dernier. Et donc là, je suis bien avancé dans l'écriture du suivant. En plus, il y a le confinement. Alors, c'était vraiment... ça m'a permis d'écrire beaucoup pendant cette période et encore aujourd'hui. Donc oui, ça sera un Charcot. Donc, puisque vous savez, j'aime bien alterner Charcot. Alors, pour l'instant, je garde secret un peu le thème. J'aimerais faire durer le suspense un peu plus longtemps. Vous allez voir, il sera très particulier. Avec une belle surprise, mais... Voilà, on va laisser le suspense encore plus grand, comme ça les lecteurs vont déjà apprécier celui-là. Il faut qu'ils le lisent très lentement, c'est ce que je leur dis, parce qu'ils l'attendent impatiemment quand il sort, et après, au bout d'une journée, ils ont fini. Et ils disent, mais c'est quand le suivant? Bon, il faut attendre un peu, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir l'enthousiasme des lecteurs et de voir qu'ils aiment retrouver mes livres, que ce soit avec Charcot ou des romans comme celui-là, qui sont complètement différents et indépendants.
Et en tout cas, c'est toujours un plaisir, même si c'est par la voix virtuelle, de vous entendre et de vous écouter, Franck Tillier, parce que c'est extrêmement passionnant de converser avec vous. Je rappelle donc que Lucas vient de sortir chez Pocket, et la nouveauté, c'est Il était deux fois chez Fleuve Noir. Ces deux thrillers où on passe plusieurs heures, plusieurs nuits blanches. Il y a quand même de belles frayeurs à avoir, mais en même temps, c'est un voyage, et en même temps, c'est un voyage aussi dans le temps, et un voyage aussi où on se balade. Hein, on va aller jusqu'en Pologne, on va aller jusqu'à Ixelles, on va aller en Belgique, on va aller enfin un peu partout à chaque fois. Donc c'est aussi une sorte de grands voyages dans l'imaginaire et dans les frayeurs les plus enfouies. Merci beaucoup Franck de nous avoir accordé cet entretien, et j'espère à très bientôt devant une salle comble comme à chaque fois que vous êtes venu à la librairie Mola. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était un vrai plaisir, et j'espère vous revoir prochainement.
Un petit mot pour vos lecteurs bordelais qui vous écouteront.
Oui, bah écoutez, ils vont me manquer, parce que comme je disais, on aurait dû se voir, et c'est toujours un plaisir de les rencontrer, mais j'espère l'année prochaine, à peu près cette période-ci, puisque ça sera normalement la sortie du prochain, qu'on se reverra, et que voilà, on pourra retrouver un peu le rythme d'avant, avec des belles rencontres, et puis des belles dédicaces et photos, voilà.
Merci beaucoup Franck de nous avoir accueillis un peu chez vous, et à très bientôt alors.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.